Carnet de voyage. Une invitation. Can't
anybody see? Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce carnet de voyage. Nous allons partir pour la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, la Sibérie, avec notre invité Quentin de Longevine, bonjour.
Bonjour Gilles.
Entre passionnés pour les horizons nouveaux, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Quentin, tu es directeur administratif et financier, un DAF à temps partiel, et surtout un grand voyageur éclectique et intrépide.
C'est ça.
J'ai lu ton blog. On se sent ballotté entre voyages solidaires et bourlingage de pays en pays. Ça m'a fait penser au bateau d'Henri de Montfred, au vent des rencontres et aux embruns des imprévus.
J'ai l'impression que, je sais pas, je dois avoir des gènes tziganes cachés quelque part qui me donnent systématiquement envie de bouger, envie de voyager, envie d'aller rencontrer. Enfin, j'ai l'impression de dire des choses très bateaux sur le voyage, aller à la rencontre des gens, de l'inconnu, prendre des risques. Cette envie que j'ai transmise à ma conjointe et
oui, parce que tu as fait le voyage avec elle.
Voilà, alors qu'on habitait la Réunion, quand on a senti l'envie de rentrer en France, retrouver nos racines, nous réinstaller, on s'est dit on va le faire, mais on va traîner un petit peu sur la route pendant 6 mois. Et c'est là qu'on est rentré par l'Asie, mais l'Asie par le nord, par le Transsibérien, de la Birmanie jusqu'à Saint-Pétersbourg. Wow. Qui m'a beaucoup marqué pendant ce voyage.
Tu as vagabondé au gré de tes envies. Quel chargement de bêtes de somme aviez-vous?
Donc on avait un sac à dos de 50 litres pour 6 mois, et avec 10 kilos. Et on a vagabondé effectivement, que ça soit à cheval, en train, un peu d'avion quand même, beaucoup de bus, avec pour principe de faire le visa dans chaque pays. On arrivait dans un pays, on faisait le visa pour le suivant, sauf les pays qui nous imposaient de le faire à l'avance. Et donc ça nous permettait de passer quasiment un mois dans chacun des pays. Et effectivement, on fait pas de plan. On a un guide de voyage réputé et célèbre qui nous sert à savoir où ne faut pas aller. Parce que tout ce qui est écrit dedans, on sait que c'est justement là où on va retrouver tout le monde. Voilà.
On va démarrer par la Birmanie. Donc j'ai vu sur ton blog que tu avais été invité, reçu dans une maison sur pilotis en compagnie des chauves-souris. Est-ce que tu t'es mis la tête en bas pour communiquer avec les chauves-souris?
Bien sûr, on nous a demandé, on nous a attachés par les pieds pour être en symbiose avec les éléments.
Bon, mais c'est chouette, ça donne envie d'y retourner.
Oui, non, mais ça c'est formidable. La Birmanie, c'est marrant parce qu'on quelques semaines avant de partir, via une ONG, on a soutenu une écolière et ils nous ont attribué quelqu'un en Birmanie. Et du coup, on a contacté l'ONG pour aller les voir. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'était dans un coin où les touristes ne vont pas. Parce qu'en Birmanie, il y a un certain nombre de zones de conflit. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est d'autant plus d'actualité. Il y a des zones déconseillées, etc. Donc là, on a pris un train pour une nuit sur des bancs en bois. Je ne savais même pas qu'un train pouvait bouger autant en laissant tout le monde en vie. On a bougé de haut en bas, de gauche à droite. Enfin, on n'a pas dormi de la nuit, c'était épouvantable. Mais on est arrivé dans une petite ville accueillie par la police, hein, comme beaucoup en Birmanie. On nous demande qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous, etc. On vérifie les papiers dès qu'on sort un peu des zones touristiques.
Il faut mettre du blanc sur les mains pour montrer patte blanche.
Voilà. Et là, on se retrouve dans une ville où les gens nous regardent avec un interloqué, souriant. On se sent bien, on se sent en sécurité. Il n'y a pas un seul voyageur étranger, un seul blanc qui est là. On s'assoit pour prendre un café. Et puis au moment de payer, on nous montre un type au fond, on nous dit « il a payé pour vous ». Puis là, on a un type qui fait un grand coucou comme ça. Ça, c'est la Birmanie. On peut laisser son sac, on revient le soir, le sac est toujours là. Peut-être que l'oppression crée l'effet inverse chez les populations.
Après la Birmanie, ça t'amène dans quel pays?
Alors après la Birmanie, on a été en Chine. J'avais étudié en Chine quelques années avant et ça m'intéressait de le faire découvrir à ma femme. Et on a passé presque 6 semaines en Chine. La Chine, ça secoue dans tous les sens parce que c'est un pays de contraste incroyable. En même temps, personne ne nous y attend. Dans beaucoup de pays d'Asie, on est un porte-monnaie sur pattes avec grand sourire, on vous attend au coin de la rue. La Chine, les gens se fichent éperdument de vous. On peut demander son chemin dans la rue et voir quelqu'un refuser de vous répondre. Ça, c'est extraordinaire. Mais on peut croiser quelqu'un qui vous accueille à sa table 10 minutes après. On a été près du Tibet. dans des zones tibétaines, mais qui font pas partie du Tibet, dans lequel on peut accéder plus facilement, dans le nord du Sichuan, du côté de Shangri-La. On a visité cette ville incroyable, qu'on est à plus de 3000 mètres d'altitude. 3 semaines avant, il y avait eu un incendie qui avait brûlé la moitié de la ville, donc c'était très impressionnant.
C'est une ville religieuse, très, très mystique, Shangri-La.
Oui, oui, le bouddhisme est très présent, la culture tibétaine est très présente. De toute façon, en Chine, il y a 10% de minorités pour 1,5 milliard d'habitants, ça fait quand même 150 millions de personnes qui sont d'ethnies complètement diverses, qui ont un rapport à l'autre qui est très différent du reste de la Chine.
Moi-même, j'avais été voir mon fils qui travaillait en Chine. Oui. Il est resté 18 mois en Chine. Ce que tu dis, on l'avait ressenti. On allait dans des endroits où on aurait bien aimé avoir de l'aide. Mmh. Et les gens, ils n'arrêtent pas comme des fourmis de bouger de tous les côtés. Ils s'en fichent de toi, l'étranger. Mais mon fils parlait chinois. Tu parlais un petit peu chinois aussi, non ?
Je connaissais, ça veut dire bonjour, au revoir, merci. Mimer le poulet et le cochon. Et compter, dire combien ça coûte. Ce qui aide énormément quand même sur les marchés, mais ça s'arrêtait à ces 10 mots-là, quoi.
Moi, j'avais appris « jeune chenille, Ren Gaoshin ». Ça veut dire « je suis enchanté de vous rencontrer ». J'ai compris aussi, bon, c'est une petite anecdote entre guillemets, que les gens ont tendance à tout le temps cracher. C'est dans leur mouchoir et c'est par terre.
Oui, alors c'est marrant parce qu'effectivement, on voit ça partout, dans la rue, dans son mouchoir, dans le bus, etc. Et il y a même visiblement des campagnes du gouvernement chinois pour que les gens arrêtent de cracher, pour changer l'image de la Chine, notamment à Pékin autour des JO, il y a eu tout un truc comme ça. Alors, c'est très amusant. La première fois que je suis arrivé en Chine, j'étais étudiant, c'était avant ce voyage. Je sors de l'avion, je vais dans un restaurant, on me met sur une table ronde, assis avec d'autres personnes, ce qui est assez rare dans nos pays. Je me retrouve en face d'un Chinois, la caricature de Tintin, avec le poil qui de 30 cm qui descend du menton, qui me regarde, hébété pendant 10 secondes, et qui me lâche un énorme euro. Voilà, ça c'est mon introduction à la Chine.
Mais c'était pour te dire bienvenue.
Certainement, oui, oui. Mais à l'époque, je parlais pas encore chinois.
Oui, tu savais pas encore roter correctement. Alors, après la Chine, tu prends le Transsibérien directement ?
Il se trouve que, on pourra en parler plus tard, mais avant de prendre le Transsibérien, on a fait un petit crochet par la Corée du Nord.
On va en parler,
parler après. Ouais. Mais l'idée là, c'était de rejoindre la Mongolie et la Russie en faisant donc Pékin Oulan-Bator par la première partie du Transsibérien, passer un mois en Mongolie pour faire le visa russe et explorer la Mongolie, et ensuite on repartait de la Mongolie, on s'arrêtait vers Irkoutsk qui est au bord du lac Baïkal où on a passé 3 semaines incroyables, et ensuite on traversait tout le reste de la Russie. Jusqu'à Saint-Pétersbourg où on a pris notre dernier avion avant de rentrer en France.
Ben ça tombe bien parce que moi je voulais qu'on s'attarde un peu sur la Mongolie.
Oui.
Donc tu y as passé un mois, c'est génial. Et tu as même eu l'occasion d'aller à cheval de yourte en yourte.
Oui.
L'image idyllique qu'on a de la Mongolie.
Oui. Alors ça, on était très attachés à vivre ça. La Mongolie, il y a Oulan-Bator et en dehors, il n'y a pas de ville. Il y a des camps de yourte. Plus ou moins dur, mais il n'y a pas d'autres villes. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Russie communiste n'a pas eu de mainmise sur la Mongolie, parce que ça reste des camps de yourtes. Et alors, effectivement, on a passé 3 jours de voyage itinérant à cheval avec un guide. Et chaque soir, on arrive, la nuit va tomber, hop, on passe la colline. Et en fait, là, il y a un camp de yourtes qui nous attend, chez l'habitant, qui nous attend. On sent que c'est organisé, je pense qu'il y a... Ils sont bien grassement payés pour faire ça. Ouais. On m'a proposé des couilles d'agneau en gelée au repas que j'ai refusé. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses que j'ai tentées.
Mais... Tu aurais dû accepter, c'est pas tous les jours.
Mais j'ai pas osé. Mais j'ai un souvenir extraordinaire de la Mongolie. C'est il y a des hordes de chevaux sauvages dans les steppes et on galope à côté. Et là, d'un seul coup, il y a 50 chevaux qui, sur 300 mètres, galopent en même temps que nous. Ça c'est un sentiment de plénitude, d'harmonie avec la nature qui est complètement dingue.
Quand tu es dans les yourtes, tu dors à l'intérieur des yourtes ?
On dort dans les yourtes, parfois avec la famille.
Mais alors là, c'est l'intimité qui est compliquée.
Elle n'est pas compliquée parce qu'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il y a un poêle avec une grosse soupe, avec une viande séchée qui sèche depuis un an à côté, qu'on vient râper dans le bouillon. C'est pas une expérience extraordinaire, hein, ce culinaire, mais ça réchauffe. Et puis après, on déroule son tapis, et puis chacun se couche dans la yourte. Même une nuit, il y avait un petit agneau à côté de moi. Voilà.
Tu pouvais jouer à la crèche, là. Tu jouais Joseph.
C'était formidable.
Mais j'imagine qu'il y a des espèces de bouses de chevaux ou d'animaux pour faire le feu.
Oui, oui.
Et le poêle, il va rester toute la nuit à cause du froid?
Effectivement, le poêle, il tournote toute la nuit, tout doucement.
Tu parlais tout à l'heure de viande séchée. Donc, ils en font un plat principal, un peu comme au Canada, où le Sioux, ils font de la viande en sauce.
Dans les camps Nourt, on n'a pas très bien mangé. Il n'y a pas de fruits et légumes en Mongolie, à part à Oulan-Bator, très peu. Donc, en fait, les vitamines proviennent du lait de jument fermenté. D'éventuellement des coronesses engelées d'animaux, de ces viandes qui font sécher pour les conserver, et sinon ce sont des pâtes dans un bouillon. Il y a des spécialités de type ravioli quand on va dans des petites bourgades où ils vont cuisiner un peu plus et puis qu'ils vont vendre sous forme de restauration, etc.
Après la Mongolie, on va en parler en deuxième partie, on ira vers la Corée du Nord et puis la Sibérie.
Oui.
On va passer en pause musicale un morceau qui sont des chants polyphoniques russes et que tu avais découvert dans un ermitage à Saint-Pétersbourg.
Au musée de l'ermitage de Saint-Pétersbourg, à un moment dans une salle, il y a cinq chanteurs russes qui ont entonné des chants polyphoniques orthodoxes. Ça m'a marqué, je leur ai trouvé ça chouette.
Et il faut dire que l'Ermitage, c'est un peu le Louvre russe.
Tout à fait, avec des collections qui n'ont rien à envier au Louvre.
J'avais vécu un peu cette expérience à Jérusalem, où on était entré dans une petite église, Sainte-Catherine, qui est une sorte de fief français. Ça a le statut d'un consulat. Et dedans, il y a des gens qui chantaient a cappella. C'était divin.
Два горинки в окошечке, стеколи чистые, стоял столик дубовой, ножки точенные, стоял столик дубовой, ножки точенные да позолоченные, ножки точенные да позолоченные. Я в огоньке сидела у окошечка глядела, я в огоньке сидела у окошечка глядела, я увидела милого да возрадовалась, я увидела милого да возрадовалась, в окошко за водой.
Сильный день не голявает,
яму счастья нету.
Ой, сам и до себе ругавает.
Тук яму бей,
но счастья вас служит, да служит коней. Не быть и не веселья ламу, что же не бежит.
Тук яму бей,
но счастья вас служит, да служит.
On continue notre voyage, on est toujours avec Quentin de Longevigne. Corée du Nord, tu l'as décrit sur ton blog comme un pays, un théâtre dont on n'est pas les acteurs.
Oui, parce qu'après ce séjour en Corée du Nord, qu'on a souscrit via une agence néo-zélandaise, mais basée à Pékin, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas si difficile d'aller en Corée du Nord à condition de payer. Pour continuer sur les dictatures et les despotes éclairés, qui fait un peu partie de notre voyage, on s'est dit que c'était extraordinaire d'aller voir ce pays si fascinant, si décrié. Effectivement, après ces 4 jours, je ne sais toujours pas si on m'a raconté une histoire ou si j'étais témoin d'une réalité. Il y a eu des indices, il y a eu des choses. Il y a un seul hôtel dans lequel tous les voyageurs,
tous les étrangers
viennent. Cet hôtel est sur une île, donc c'est pas facile de sortir la nuit. Il paraît que les voyageurs qui sont typés asiatiques peuvent facilement aller la nuit sur des marchés noirs, etc. Mais pour moi, c'était impossible.
Mais voilà. Tu t'étais bridé un peu les yeux pour essayer?
Non, j'ai même pas essayé. J'ai pas voulu jouer avec le régime. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, encadré par 2 guides. Tout est organisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque voyageur qui vient, montre à la Corée du Nord qu'on n'est pas des monstres, que ça crée de l'ouverture, ça crée du dialogue, ça crée de l'échange. Il y a par exemple dans Pyongyang des femmes en uniforme qui font la circulation à l'ancienne, hein, il n'y a pas de feu, sauf qu'il n'y a pas de circulation. Donc il y a une voiture par minute qui passe, voiture des officiels, des étrangers, des bus, etc. Mais, donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont très amusantes. On nous a emmenés dans un parc, c'était un jour férié, il y avait plein de gens qui pique-niquaient, qui jouaient, qui dansaient. Etc. Et on ne sait pas s'il y avait ce jour-là des milliers de figurants.
Spécialement pour vous, les étrangers.
Mais parfois, on doute tellement il y a des choses qui sont invraisemblables. Donc on doit aller se prosterner quand le premier jour devant les statues du père et du grand-père de l'actuel dirigeant. On va visiter le mausolée dans lequel chacun expose son train, sa voiture, son bateau, puis son corps, conservé comme Lénine sur la place Rouge. Donc on va se prosterner devant le corps momifié, hein. Et on est entouré de femmes qui font semblant de pleurer à côté de nous. Il y a des ambiances qui sont très particulières. Et en même temps, moi j'ai trouvé que c'était des gens très intéressants, qui avaient de l'humour, qui se laissent pas marcher sur les pieds.
Ce qui est étrange, c'est d'avoir une certaine forme de liberté, même d'expression. Et puis cet embrigadement que tu supposes mais que tu ne vois pas réellement. C'est un peu au-delà du cliché de l'état dictature.
C'est un peu au-delà. Après, il y a pas mal de choses qui sont diabolisées chez nous, de notre manière de voir, par notre vision, nos médias, etc. Parfois, je pense qu'on exagère un petit peu la réalité.
Tu disais dans ton blog que les médias nous pipotent un peu sur la Corée, et vice-versa.
Oui, oui, chacun essaye de raconter son histoire. Une dernière anecdote sur la Corée du Nord, le train du retour. Donc on a fait l'aller-retour Pékin-Pyongyang en train couchette. Je discutais en français dans mon wagon. Et il y avait un officier devant moi, devant mon compartiment, qui m'observait depuis 10 minutes. Et d'un seul coup, il me dit en français, « Vous typiquement français. » Et comme nous étions, avec ma femme, les seuls français du train, je pense que ce n'était pas un hasard qu'un officier qui parlait français avait été mis devant notre compartiment.
Ouais, donc ça prouve que vraiment, il s'attache à donner une image par rapport aux étrangers. Oui. Quoi. Ça fait plaisir de trouver quelqu'un qui a été en Corée du Nord, parce qu'au moins, tu peux nous dire ce qui s'y passe. Et comme tu n'as pas le profil Trump, a priori, tu es neutre.
C'est difficile d'être neutre.
On va passer à une grosse partie de ton voyage, la Sibérie.
Oui.
Tu as passé 10 jours à côté du lac Baïkal.
C'était la fin du voyage et j'en avais marre de voyager en changeant de lieu tous les jours, en essayant d'aller visiter tel ou tel centre d'intérêt. J'avais envie de poser, de rencontrer les gens. Et puis, on en avait entendu parler en Mongolie, en discutant avec des voyageurs. Sur le lac Baïkal, qui est un endroit extraordinaire, c'est la première réserve d'eau douce mondiale, 6 km de profondeur, qui est gelée la moitié de l'année. Il y a une île au milieu, avec quelques villages. Et sur cette île, il y a un type qui accueille les voyageurs de passage. Il a construit une cabane. On arrive. S'il y a de la place, on s'installe. C'est une cabane à côté de sa maison qui peut accueillir 8 personnes avec une cuisine, des lits superposés. On reste tant qu'on veut. On donne un coup de main éventuellement pour des petits travaux, mais il n'y a pas d'obligation. Et il y a une énergie incroyable. Il paraît que le lac Baïkal est l'un des 5 pôles chamaniques mondiaux.
Le 6e, c'est Charance, mais peu le savent.
Je m'y suis senti vraiment très bien, très détendu. Et alors, il se trouve que ce type qui avait construit cette cabane, il avait appris la philo à la Sorbonne. Et il parlait français. Et il était sonneur de cloches de l'église.
Mais c'est peut-être pour ça que c'est chamanique, c'est parce qu'il sonne les cloches.
Il y avait un petit hôtel à côté, et je suis allé cuisiner des quiches lorraines avec eux.
T'aurais pu rester plus de 10 jours si tu cuisines les quiches lorraines.
J'avais plus envie de partir, mais on avait quand même envie d'aller voir un autre côté du lac Baïkal. Donc, quasiment 600 km plus haut, je crois, il y a la ville de Severo-Baïkalsk. Et pour donner un peu de piment à notre voyage, on a décidé d'y aller en autostop.
Tu as fait 3 jours d'autostop pour 600 km.
Chaque jour a été extraordinaire. Donc le premier jour, on s'est pas trop mal débrouillé. On a rejoint Irkoutsk. On arrive un soir dans un village. On fait du stop. C'était la fin de la journée. La nuit, elle est bientôt tombée. Et là, il y a un officier russe qui s'arrête, qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes complètement fou. » En anglais. Et on lui dit « Bah voilà, est-ce que vous pouvez nous emmener à la sortie du village? Parce qu'on voudrait atteindre encore telle destination avant la nuit. » Il me dit « D'accord, je peux vous emmener, mais vous pouvez aussi venir passer la nuit chez moi. » Ma femme n'a jamais vu d'étranger, elle adorerait. Il avait quelques années de plus que nous, à peine, il avait moins de 40 ans. Il était capitaine de la section locale militaire dans ce petit village de Sibérie. Et là, ça a été extraordinaire. On sort une bouteille de vodka. Alors, en Russie, quand on ouvre une bouteille de vodka, on la finit. C'est pas pour boire un petit coup. On arrive chez eux, ils laissent les enfants à l'aîné et il nous dit on aimerait bien vous emmener quelque part. On les connaissait depuis 2 heures. Il nous bande les yeux, il nous monte en voiture, on fait 10 minutes de voiture. Et là, il nous dit faites-nous confiance. Et nous, on était en lâcher prise totale, on faisait confiance.
La vodka a beaucoup aidé.
La vodka a aidé. Il nous emmène, on sort de la voiture, ils nous tiennent par la main. Et là, ils nous disent retirez les bandeaux. Et là, on regarde et on était perchés en haut d'une falaise avec une vraie vue typique de la taïga, avec le fleuve qui serpente comme ça entre les bouleaux et les pins, perte de vue. Et ça, c'était... Et ils nous ont dit, voilà, nous, on s'est rencontrés ici et on avait envie de partager ça avec vous. On se connaissait depuis 2 heures. Ensuite, on est rentré chez lui, rebouteille de vodka. J'en pouvais plus, mais je n'arrivais pas à refuser. Et là, ivre sous, à 1h du matin, il me propose d'aller tirer au fusil à pompe dans un champ à côté, sur des bouteilles
de
fusil éclairées par les phares de la voiture. Invraisemblable. Donc ça, c'est une anecdote de ce trajet. J'en ai encore plein parce qu'on a fini le trajet en train marchandise stop. Ces 4 jours d'autostop en Sibérie, je pense, font tout le voyage.
Mais ça a été ton baptême à la vodka et au fusil à pompe.
Et voilà.
Et au phare de voiture.
C'était un grand souvenir, oui.
Ensuite, tu as rencontré d'autres gens en allant vers Saint-Pétersbourg.
Oui, alors après, on a pris le Transsibérien dans sa version la plus longue. Irkoutsk-Moscou, il y en a pour 3-4 jours. Donc là, c'est des trains couchettes immense, avec 6 personnes par compartiment. Le russe arrive en costume, et ensuite il se change en Marcel et en claquette. C'est très chouette, il y a des ambiances. Et là, on vit au rythme du train pendant 5 jours. Alors, ça commence à être un peu long. Le paysage des bouleaux, des pins. Le 2e jour, des bouleaux, des pins. Le 3e jour, on a le droit à des bouleaux et des pins. Mais on peut acheter une bière et un saucisson dans les arrêts et fait partie de toute cette langueur.
On se demande, pour communiquer, en définitive, il y en a quelques-uns qui parlent anglais. La société éduquée, la middle class.
Aujourd'hui, où qu'on aille dans le monde, on arrive à communiquer. Je me doute bien que les gens qui parlent espagnol couramment, quand ils vont en Amérique du Sud, ils ont des échanges très riches avec les gens que je n'ai pas. Mais on arrive à communiquer avec les gens en mimant, en se regardant. Il y a plein de choses qui passent, même quand on ne parle pas la langue.
On voit que tu as poussé au plus loin tes expériences de voyage. Ça me fait penser à cette phrase, s'éloigner de tout rapproche de l'essentiel. Est-ce que tu as trouvé un essentiel au bout de ce voyage?
Je pense que je suis en perpétuelle quête de l'essentiel, que ça ne s'arrête pas. Je continue à voyager, mais en interne, un peu à l'intérieur de moi-même. Quand on est rentré, on s'était dit qu'on allait garder cette fraîcheur et ce côté ingénu de la rencontre. Très vite, ça s'efface dès qu'on rentre dans notre quotidien.
Ouais,
et souvent, on essaye de se le rappeler.
Oui, ça m'a fait la même chose. Quand tu reviens d'un voyage, tu aimerais garder cette légèreté que tu as acquise.
Mais une fois arrivé dans le TGV, si on regarde son voisin avec des grands yeux, qu'on lui dit bonjour, comment vas-tu, lui, il ne le rend pas.
Et dans ton blog, tu paraphrases Stendhal, puisque tu dis que ce que tu as aimé dans le voyage, c'est l'étonnement du retour. Tu as même intitulé ton blog,
oui,
comme ça. Donc cet étonnement définitif, maintenant tu l'as transposé dans une quête existentielle.
Oui, c'est une quête qui s'arrête jamais.
On va être obligé d'arrêter cette quête pour terminer notre émission. Merci Quentin de nous avoir apporté ton éclairage ou même tes pleins phares sur les cabanes du lac Baïkal.
Avec plaisir.
Merci à toi.
Merci Gilles.
Carnet de voyage. Une invitation. Ooh, can't anybody see?